TimeFoot. TimeFoot. Résultats, news, agenda et info off de la plus grande compétition africaine. Tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et c'est parti sur l'antenne de Beurre FM, 20h pétante, c'est l'heure de TimeFoot. Et oui, votre émission spéciale Coupe d'Afrique des Nations du côté du Cameroun. On la joue à la bonne humeur avec toute l'équipe de TimeFoot. Au menu de l'émission, excusez-moi, en ce mardi 11 janvier 2022, on parlera de quoi ? Et oui, de l'Algérie qui est entrée en lice et match nul face à la Sierra Leone. On parlera aussi de ce choc Nigeria-Égypte, une finale avant l'heure dans cette phase finale de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations. Et le Gabon qui gagne sans tout de même ses fameux stars. N'oubliez pas le numéro du standard, le 0153483000, pour réagir avec nous en live, avec toute l'équipe de TimeFoot. Yanis, notre réalisateur, se fera un plaisir de vous faire passer à l'antenne. On le rappelle, le numéro du standard, le 0153483000. Allez, c'est parti, on va écouter le JT Sport de Jason, on y va.
Et oui, on démarre les infos du mardi par une info transfert. L'attaquant congolais Cédric Bakambu serait tout proche de s'engager avec l'Olympique de Marseille. Libre de tout contrat après 4 ans en Chine, l'ancien Sochalien pourrait signer dans les prochaines heures chez les Marseillais. Toujours côté Mercato, Kingsley Coman devrait lui prolonger son contrat au Bayern Munich après de longs mois de négociations. Le Français deviendra très prochainement l'un des plus gros salaires du club bavarois. En Espagne, Ferran Torres devrait débuter son premier match sous les couleurs du Barça mercredi soir lors du Clasico face au Real Madrid en Supercoupe d'Espagne. Et on termine avec du rugby. Le Premier ministre Jean Castex annonce officiellement que la France accueillera en 2025 la Coupe du Monde de rugby à 13 pour la troisième fois de son histoire. Voilà, c'est tout pour les infos du mardi. En vous souhaitant une bonne émission avec Bilal et toute l'équipe TimeSport.
Et voilà, ça parle. Et oui, tout le temps dans ce studio, on aura le coach Tolé qui sera de la partie, sans oublier Abdel, ce soir avec moi. Comment ça va, Abdel ?
Bonsoir à toutes et à tous, ça va très bien Bilal, très content d'être là, impatient de débuter.
Un petit clin d'œil aussi à Yacine qui nous écoute ce soir, sans oublier Mourad, encore avec nous ce soir. Comment ça va Mourad ?
Bonsoir Bilal, ça va très bien et toi ?
Ça va très bien Mourad. Et Boula, il est là aussi, comment ça va Boula ?
Alhamdoulilah, tranquille.
Ça va, voilà, un et fameux tube d'un certain Lafouine, à qui nous pensons.
Bonne fête à toute l'Algérie pour le Nayar, pour demain.
Voilà, ben bonne fête, c'est ça, bien sûr, tu as raison, c'est pas faux. Ouais, une petite pensée aussi à Rouen, en la personne de Mohand. Il est avec nous, c'est pour la première fois que nous l'accueillons dans cette émission, cette quotidienne sport, c'est La Caution, Ahmed de La Caution. Bonsoir Ahmed.
Bonsoir, bonsoir.
Comment ça va ?
Merci pour l'invitation, ça va très bien, nickel.
Mais merci d'avoir accepté Ahmed. Ahmed, on va essayer, dans un premier temps, de parler de l'Algérie. On va pas oublier aussi les Lions de l'Atlas, ça c'est promis, hein, dans cette interview avec vous. Et aussi, on enchaînera sur les autres matchs de cette fameuse journée concernant cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, on s'attarde sur les Algériens.
TimeSport, le sujet des sociaux.
Eh oui, Algérie, Sierra Leone, Mourad, en direct. Et justement, ça a fait un peu... Ça a donné un... Ouais, on va dire... De mauvaises, allez, une petite surprise concernant les supporters des Fennecs, mais aussi on croyait que ces champions de titre des Algériens allaient s'y faire et allaient même vaincre cette équipe quand même qui a été bien en place avec nombre de Camara, on avait l'impression, hein, pour la petite blagounette. C'est vrai que le nom de Camara est ressorti pas mal de fois sur la twittosphère aujourd'hui, mais en tout cas, on a failli à notre tâche et il regrette le sélectionneur de cette équipe des Fennecs, Jamel Belmadi, après ce nul. Eh oui, des Fennecs.
Ouais, effectivement, passe de Camara, contrôle de Camara, récupération de Camara, quel arrêt de Camara.
Il était fort, Camara.
Camara était l'homme du match, je dirais même les hommes du match concernant le Sierra Leone.
Bravo, non, Sierra Leone.
Petite blague à part, comme tous les favoris, c'est une entrée en lice assez compliquée. Je vais pas revenir sur les conditions, le terrain, etc.
C'est toujours comme ça, quelquefois, avec les champions.
À d'autres chroniqueurs ou à d'autres analystes. Je pense que c'est simplement un pari qui a été risqué côté Belmadi. Hier, on parlait du manque de numéro 10 et de la multiplication des ailiers dans certains systèmes de jeu. Je pense que l'Algérie a le problème inverse. C'est à trop de numéro 10 et pas assez d'ailiers pour élargir le bloc et déstabiliser le bloc Sierra Leone. Je pense qu'il fallait au moins des ailiers qui prennent en profondeur. Ça n'a pas été le cas. C'est un pari risqué qui est tout à fait louable, hein, qui a été mis par Belmadi, mais en tout cas, c'était pas le résultat escompté. Après, ouais, les conditions des matchs à 14h, qui pour moi sont des purges. Je pense que c'est un mal pour un bien aussi.
C'est difficile pour les joueurs. Vous voyez, les matchs à 14h.
C'est très compliqué. J'ai pas envie de revenir sur des arguments à la Saaden des années 80 en disant l'humidité, etc.
C'est toujours là.
Mais c'est très, très compliqué. Belmadi l'a évoqué.
Pour les matchs de Coupe du Monde.
Très, très difficilement supportable pour les organismes, etc. Ouais. Donc c'est ce que même Belmadi a avancé. Mais en tout cas, je pense que c'est un mal pour un bien.
Alors,
je pense qu'ils vont, ils vont redescendre sur terre suite à ce match.
On en parlait.
Oui, il y aura quelques modifications et
ça va faire
pas une seconde
bien,
que Belmadi lancera des des petites modifications pour repartir sur de la plus belle des manières.
On va s'attarder sur cette équipe d'Algérie avec Abdel aussi, Boula et notre invité, la caution, la personne d'Ahmed.
Comme il a dit Mourad, c'est vrai que Jamel Belmadi, il avait dit en avant-match que il y avait plus de petites équipes, que ça allait pas être un match facile. On connaît le sélectionneur que c'est, donc s'il le dit, on peut
face à l'Algérie,
on peut lui faire confiance, et surtout ça a été prouvé. Outre tout ce qui a été, oui, comme il a dit Mourad, les conditions climatiques et l'état de la pelouse, c'est vrai que l'Algérie paraissait un peu plus entre guillemets fébrile ces derniers temps, et notamment au milieu de terrain, quand on voit que Bennacer était suspendu, que Zerouki est blessé de dernière minute, et que Sofiane Feghouli devait revenir que pour les huitièmes de finale si jamais l'Algérie se qualifie, et que tu le vois titulaire, tu te demandes
aussi l'absence d'Adam Ounas, qui pour moi aurait pu être un facteur X dans le cadre de ce match-là, puisque c'est un des seuls ailiers potentiellement capable de prendre la profondeur et déstabiliser une défense basse comme celle du Sierra Leone.
Ounas. Ouais, c'est vrai. Tu te demandes comment Feghouli a pu jouer après. Comme tu cites Ounas, c'est vrai que c'est vraiment normalement le super sub numéro 1 de l'équipe. Quand on a vu que Mahrez, par exemple, était déjà fatigué au bout de 30 minutes parce que ça piochait. Ouais. Après, il y a eu une mi-temps chacun. On va pas se mentir. Je pense que la Sierra Leone a très bien joué les coups et aurait pu surprendre l'Algérie. Par contre, il y a eu un manque d'efficacité de la part des Fennecs en deuxième période, parce que par manque de lucidité, par manque de communication, certaines fois ou trop un excès d'individualisme. Maintenant, comme on a pu le dire, la série d'invincibilité est en cours. Ça permet de garder les pieds sur terre et de se concentrer sur les objectifs, qui est d'aller le plus loin dans cette compétition. Et il n'y a rien d'alarmant. Encore une fois, les Algériens sont très exigeants. Ils doivent être exigeants, mais ils doivent être juste dans leurs propos et voir aussi tous les à côté d'une rencontre comme celle qui s'est déroulée aujourd'hui.
Ouais. Voilà.
Moi j'ai à dire un truc là sur l'équipe d'Algérie, parce que
cette équipe d'Algérie,
c'est notre équipe, mais je la suis.
C'est ton équipe.
Là, quand je vois un joueur comme Boudaoui qui est pas dans le groupe, et quand je vois la qualité qu'il a et ce qu'il fait à Nice, quand Morad parle d'Adam Ounas, c'est vrai que Adam Ounas a beaucoup de qualités. Après il y a des choix, à mon avis. Jamel, il est rentré dans des choix, il est en train de préparer sa Coupe du Monde. Il doit préparer aussi ses deux matchs de qualification, qui c'est des deux matchs importants dans la gestion. Je pense qu'il fait tourner le groupe. Et ce que j'ai pas compris, c'est au début du match, il fait pas jouer de Jamel Belhamri, et il le fait rentrer à la mi-temps, parce que ils sont, et puis Jamel Belhamri, sur les trois derniers matchs qu'il fait en coupe arabe, ça a été du solide.
Non, je suis pas d'accord, puisqu'il a été écarté par Bouguera durant la coupe arabe, Jamel Belhamri, parce que Bedran.
Non, il était blessé.
Parce que Bedran a justement été supérieur à lui d'un point de vue de performance.
Non,
il était plus performant.
Bah non, il était pas supérieur à lui, parce que sur la première occasion, quand il fait le tacle, heureusement qu'il est il est en retard. Heureusement qu'il rate sa frappe.
Alors, Bedran a tenu la baraque. Sans Bedran, on en prend un ou deux aujourd'hui.
Sans Bedran,
en première mi-temps, face au Sierra Leone. Il l'a sorti à la mi-temps parce qu'il a pris un carton jaune. Et il voulait pas se mettre dans le dur. Il voulait pas se mettre dans le dur, justement, en s'ouvrant à un potentiellement potentiel carton rouge en deuxième mi-temps.
Quand tu veux prendre des risques, tu veux faire jouer Bedran, qui n'a pas l'habitude de la Coupe d'Afrique, qui n'a pas l'habitude de trucs, tu fais jouer les titulaires indiscutables, un mec comme avec Jamel.
Ben Belhamri, je ne sais pas si tu as suivi les dernières prestations de Ben Belhamri, pas seulement avec l'équipe A prime, mais avec l'équipe A. Ben Lamry, il est un peu dans le dur avec l'équipe nationale, notamment les deux prestations face au Burkina Faso. Il a fait une très très bonne rentrée.
C'est même pas ça, c'est que je connais par cœur le joueur. Si je me permets de parler de Jamel.
Excuse-nous, alors dans ce cas, tu débats tout seul. On peut émettre des analyses.
Tu peux débattre, mais là, tu parles de joueurs qui jouent.
Mais là, tu fais une analyse de Ben Lamry a posteriori, après sa bonne mi-temps. Mais moi, je te dis qu'avant ce match-là, Ben Lamry était dans le dur en équipe nationale.
prends Yacine Brahimi,
Brahimi pour toi.
Yacine Brahimi, il a fait du Yacine Brahimi. Il avait potentiellement la victoire entre ses pieds et il a pêché dans le dernier geste.
Après,
j'ai trouvé un bon Yacine Brahimi aujourd'hui.
Mais tu sais pourquoi ?
J'ai trouvé un Fekouli en deçà. En fait, c'est l'animation offensive qui était à remettre en cause. L'Algérie manquait de rampe de lancement. Quant à quatre milieux offensifs axiaux.
Alors ?
Pour supporter un Slimani et que ça manque de profondeur, c'est là où que ça pêche. Il y avait à l'initiation, à côté d'un Belkebla, il manquait justement un Zerouki, un Benacer qui pouvait faire l'intermédiaire justement entre ces meneurs de jeu.
Non mais moi
je pense que c'est une analyse globale que j'ai.
Quand tu me parles de Zerouki, pour moi le joueur indiscutable et qui manquait, tu prends Benacer.
Oui.
C'est des titulaires indiscutables.
Mais il est suspendu Benacer.
Suspendu, mais il a été remplacé par Aris Belkebla. Aris Belkebla, il a pas été.
Mais il est suspendu aujourd'hui, Benacer. Mmh.
Non, mais je sais qu'il est suspendu.
Aris Belkebla, il a fait un très bon match, mais il manquait de relais, justement.
Après, moi, ça n'engage que moi. Quand je vois le petit Boudaoui, je suis en train de pourtant, je suis pro Jamel. Tu le sais, Morad. Je suis très pro Jamel. J'arrive pas à comprendre que ce qu'il fait à Nice. Le petit Boudaoui, et en plus de ça, il fait l'unanimité au club de Nice.
Faire l'unanimité pour quelqu'un qui est trimballé de poste en poste, je pense pas que ça s'appelle faire l'unanimité.
J'ai discuté avec ses coachs.
Et aussi, pourquoi pas une guerre d'ego entre Belmadi et Galtier par rapport à Boudaoui.
Après, être trimballé de poste en poste, c'est vrai que c'est selon les entraîneurs. Après, c'est vrai qu'il aurait pu être dans la liste Boudaoui du fait qu'il y ait 28 joueurs. Moi, par contre, je suis pas d'accord avec vous sur Belkebla.
Alors,
je l'ai pas trouvé si bon que ça. Il a été dans les standards, voire un peu en dessous. Après, c'est la Coupe d'Afrique, c'est différent. Par contre, il y a un choix pour moi qui est peut-être discutable. On parlait de la défense centrale avec Ben Lamri, mais c'est vrai que Bounedjah, il était pas en réussite ces derniers temps. Mais le fait, tout le travail qu'il fait pendant le match, au moins pendant 60 minutes, 65 minutes, à chaque fois qu'il y a eu le changement avec Slimani, à l'inverse. Slimani avait beaucoup plus de place.
Je suis entièrement d'accord avec toi.
Beaucoup plus de place, beaucoup plus de facilité pour lui, qui est un vrai renard des surfaces pour le coup. Donc j'ai pas compris forcément dans la.
Moi j'affectionne le schéma inverse. Je suis d'accord avec Abdel. Ouais. C'est Bounedjah en entrée qui va épuiser les défenses et ensuite Slimani qui vient enfoncer le clou.
Surtout avec la température, peut-être que Bounedjah est plus habitué à ce genre de chaleur due au championnat où il joue, contrairement à Slimani ou à d'autres qui sont en plein hiver là en Europe. Maintenant, voilà, il y a rien d'alarmant. Je pense que il y a eu des absences, suspendus ou blessés, et que il a fallu trouver une bonne formulation. Il y a eu qu'un match amical. Maintenant, voilà, je pense que l'horaire va être différent de dimanche et que l'Algérie sera peut-être mieux.
Pourquoi pas une victoire des Algériens. Ahmed. On va écouter Ahmed, notre invité. On l'a même pas laissé parler. Eh oui, sur ce débat avec ce sujet, avec les Algériens qui nous écoutent ce soir en masse sur l'antenne de Beurre FM.
Non, mais il y a beaucoup de trucs qui ont été dit là qui sont hyper vrais. Surtout, je rejoins
Abdel.
Totalement sur Bounedjah parce que lui, il a vraiment ce coffre et ce volume de jeu qui est incroyable, qui fait que même si il marque pas dans un match, c'est quelqu'un qui pèse énormément. Mais dans un sens, je pense que bon, après c'est la passion, etc. Et étant le seul qui ne soit pas algérien ici, moi je pense qu'il faut pas non plus commencer à dire que ce joueur ou ce joueur, parce que la Coupe d'Afrique c'est quand même très très opaque, très on va dire assez difficile. Comme dit Belmadi, il y a pas de petites équipes, mais là encore plus avec l'espèce de pression qu'il y a. Je pense que en Afrique, c'est là où t'as le plus la pression, à part peut-être en Amérique latine avec le syndrome Escobar qui a même été tué parce qu'il a marré contre son camp en Coupe du Monde 94. Mais ce syndrome de stress d'être en sélection, il est ultra exacerbé en Afrique et donc l'entrée de jeu, le premier match, personne veut perdre, tout le monde a limite un contrôle que tu réussis avec un joueur comme peu importe lequel, parce que je pense que n'importe quel joueur de l'Algérie est titulaire 100 fois en face au Sierra Leone. Donc du coup, c'est vraiment, je pense, un premier match avec tout ce qui va avec et le stress de mal faire qui fait que l'Algérie est un peu dedans et je pense que Belmadi va trouver les bons mots pour peu importe l'effectif qu'il choisit parce que quand il y a assez de qualité dans cet effectif pour faire ce qui pour aller au bout même.
Ça promet pour l'interview après avec
Ahmed. Je suis d'accord avec Ahmed sur la pression africaine. Je pense que ça m'a fait penser à un exemple, à l'exemple de la Guinée.
Alors
la Guinée, de par son président, a été enfin l'effectif guinéen serait amené à rembourser les indemnités justement de
Collier a parlé
dans le cadre de la Coupe d'Afrique en cas de disqualification dès le premier tour. Donc ça témoigne un peu de la pression qu'il y aurait en Afrique et ça tu le trouves nulle part ailleurs. Il y a un président qui parle directement à son effectif en disant de rembourser les indemnités, ça se voit nulle part. Pourquoi pas peut-être en Amérique latine.
On revient avec
Je dirais juste un petit détail.
Alors rapide, Boula.
La Coupe d'Afrique.
Ouais.
Le match de l'Algérie aujourd'hui, c'est le gros problème de l'Afrique. Tu sens ces matchs-là, à l'époque, on les avait. Et pendant quand Jamel est arrivé, on les a plus cette pression-là. Et c'est vrai quand tu dis
quand Ahmed dit
ouais, il y a cette pression africaine. Et c'est vrai que il y a plein de joueurs qui sont en panique et qui ont la pression.
Et ça,
ce que j'ai retrouvé dans ce match-là,
ouais,
c'est qu'il y a des joueurs qui sont cagués dessus.
Et en même temps, juste compléter sur la pression, parce qu'en réalité, il y a ce côté négatif qui fait que un joueur va un peu se caguer dessus, comme tu dis, mais il y a un côté ultra positif qui fait que c'est là où on retrouve un football de passion et de vrai cœur. C'est-à-dire que t'as plein de joueurs qui jouent dans des sélections entre guillemets plus huppées ou européennes ou n'importe quoi. Il perd, il gagne, il est tranquille chez lui le soir même. Là, c'est peut-être le il y a n'importe quel joueur de n'importe quel, on l'a vu avec le Zimbabwe contre le Sénégal, on a vu les têtes déconfites des, alors que ils savent très bien que le Sénégal leur est supérieur, et pourtant même le mec dès qu'il met son maillot, il est là, il est, et ce truc là moi je trouve ça hyper beau, et c'est pour ça que
c'est le charme de la
voilà, c'est exactement ça.
Merci messieurs, merci Ahmed, on va faire une courte pause avant de revenir avec toute l'équipe de Time Foot, à de suite.
Time Foot revient dans un instant.
De retour en live dans cette émission qui est Time Foot spéciale Coupe d'Afrique des Nations avec Boula. Le coach Tolé nous a rejoint. Bonsoir le coach Tolé.
Bonsoir tout le monde.
Comment ça va le coach Tolé?
C'est impeccable. Il refait très froid.
Aïe. Ça veut dire. Ah oui.
Il vient de la Suède.
Peut-être en Suède. Il y a eu un reportage en plus fait sur un certain Zlatan Ibrahimovic. Encore une fois, à nouveau. Oui, Abdel est avec nous, sans oublier Mourad. On a aussi la scène de Saint-Germain des Prés, c'est bien ça. Eh oui, à qui nous passons le bonsoir. Yacine se promène, on ne sait pas
jusqu'au
où il est.
Jusqu'au Blanc-Ménil en passant par Oran.
Ah, Wahran, aïe, ça nous fait rêver. Il fait quel temps à Wahran en ce moment? Il doit faire beau.
J'en ai aucune idée, mais je pense qu'il fait beaucoup plus, il fait meilleur qu'ici en tout cas.
Marrakech aussi, il fait beau.
Et peut-être un peu plus frais qu'à Yaoundé ou à Douala.
Ah ben oui, on pense à eux en tout cas. Oui, Ahmed est toujours avec nous. Allez, on va s'attarder avec Ahmed de la caution.
Time Sport, The Special One.
Eh oui, t'as la montre Ahmed, hein, c'est ça.
Ouais.
Steven Soderbergh, je crois dans les années 2000, c'est bien ça, une scène mythique en la personne de Vincent Cassel, ou encore avec de George Clooney, avec cette charmante Julia Roberts à ses côtés, et en le voyant dans cette cour romaine du côté de la capitale italienne, en dansant ou même faisant de la capoeira. Comment est arrivé là ce clip, cet instru, ce titre quoi, dans ce film quand même légendaire ou même de notable quoi?
Bah écoute, déjà bah tu l'as dit dans ta question, en fait c'est la capoeira. Vincent Cassel avait un coach qui était on fait partie d'une équipe à la base qui s'appelle Courtrage-Mais, donc où il y a Kim Chapiron, Romain Gavras,
toute l'équipe de Courtrage-Mais,
tout le monde
magnifique.
Ouais voilà. Et du coup il y avait les anciens courts-métrages qui étaient beaucoup plus on va dire underground. Il y en a un il y avait un court-métrage qui s'appelait Taroubi l'arabe strait, donc avec le jeu de mots sur l'arabe strait voilà.
Ouais.
Et Taroubi il était champion d'Europe de capoeira je crois, ou vice-champion de France, un truc comme ça, hein. J'ai plus exactement le truc, mais c'est un tueur en capoeira et il coachait Vincent Cassel à l'époque. Et quand Soderbergh lui a envoyé le script de tu vas passer entre des lasers un peu à la grosso modo type américain à la Roger Moore, tu vas passer entre les lasers un peu le truc un peu élégant mais claqué en vrai, il lui a proposé, lui a dit ce serait plus beau de le faire avec des mouvements de capoeira effectivement, et lui a demandé de lui montrer ce dont il parlait, il lui a passé le DVD et Soderbergh a kiffé l'idée. Donc il lui a dit ok. Donc ils ont fait la scène et au montage, Vincent Cassel hallucine parce qu'il a gardé la musique. En fait, j'avais fait le morceau Thé à la menthe, qui est un morceau de notre album, notre deuxième album. Ça. À la base, la version instrumentale, elle habillait le court métrage Taroubi l'arabe strait. Et donc voilà quoi. Le mec a trouvé que ça correspondait parfaitement à la scène et c'est génial parce que du coup
c'était une erreur à la base.
Ouais. Du coup,
c'était volontaire de ta part.
De quoi?
Bah, le fait d'inclure.
Ah non, moi c'était pas volontaire. Moi, c'est le mec s'est tombé dans ses oreilles et il a voulu le prendre absolument.
Ouais. Et l'ami.
D'ailleurs, même pour la petite histoire, là pour l'anecdote, le mec qui fait le reste de la musique du film, qui s'appelle David Holmes, qui est un monstre. En gros, c'est le mec qui fait beaucoup beaucoup de musique de film, donc qui a pas besoin, on va dire.
C'est un peu le James
Horner. On va dire qu'il est à l'abri. Le mec a tout fait pour le retirer. Hein,
ah ouais, quand
en
même.
En essayant de le calquer. Et on parle de mec qui peut avoir à disposition X musiciens, etc., etc., pour essayer de calquer le truc, parce que du coup, la grosse scène du film, puisque c'est la scène notoire du film, lui échappait et grâce à Dieu, alhamdoulilah, il a pas réussi et du coup, le son est resté sur le film et est devenu, nous-mêmes, ça nous a grave échappé parce que c'est devenu ultra mondial, puisque dans l'espèce de truc un peu rebeu électronique, cette espèce de manière de travailler le truc, t'as énormément de gens, tu vas du monde arabe jusqu'au Balkan, passant par l'Asie mineure, etc., qui se retrouvent dedans. Et du coup, on a eu la chance, grâce à ce morceau-là, de tourner dans 18, 19 pays, ultra exotiques comme le Kazakhstan, l'Amérique latine, plein de trucs de ouf, juste avec ce hit qui était sur Ocean 12.
Ouais, si on pourrait écouter un petit morceau
Le mec qui a voulu retirer, c'est
le mec qui fait le reste de la musique de film.
Et pourquoi il a voulu le retirer?
Parce que la grosse scène ça lui faisait de l'ombre. Voilà. Et donc la grosse scène lui échappait. Et la meilleure preuve, je dis pas ça par rapport à moi, parce que quelque part j'ai aucune comparaison à faire avec lui. Il est mille fois plus big en termes il est mille fois plus établi. Mais c'est parce que le mec, ensuite, il y a eu la BO, donc le soundtrack du film.
Ouais.
Quand la BO est sortie, il a pas voulu mettre le titre dedans.
Carrément.
Tu sais pourquoi? Parce qu'il a considéré que c'était du score. Alors dans un film, le score, c'est par exemple si là on tourne un film et qu'il y a une scène un peu tendue, c'est la nappe de violon que tu vas entendre en fond. C'est pas vraiment un morceau.
Elle a jamais été, c'est vrai.
Non, elle était pas dans la BO.
Elle était pas dans la BO parce qu'on le demandait.
C'est pour ça que je lui pose la question parce que quelque part, quand t'as l'idée de quelqu'un d'autre et tu déranges, ça veut dire que dans tout le système mondial et dans tout le système cinéma, foot ou dans n'importe quoi, tu retrouves toujours les mêmes.
Exactement.
Tu retrouves toujours dans les mêmes situations. Ce qui est énervant, c'est que l'autre, il joue. Il a un ego. Il a un ego. Quand je comprends bien le truc. Moi, ça me met un peu hors de moi parce que t'as des gens qui ont des qualités, chez les Américains, tu le vois pas ça. C'est plus en France.
Tu le vois aussi chez eux, c'est plus sournois.
Mais c'est respectueux. Ils sont très respectueux des talents des génies.
En tout cas, s'il y arrive pas, c'est pas parce que c'est un bon pote du réalisateur. Donc s'il y arrive pas, le mec a pas enlevé pour autant. Alors qu'en France, le mec aurait privilégié son pote avec de la qualité moindre.
Ça c'est
carrément vrai.
Aux États-Unis, tu l'as pas. Ça, cette mentalité.
Non, tu l'as moins. Après,
parce qu'il respecte un petit peu le talent, le génie, le mec qui a
autre chose. Et puis surtout, moi, ça m'a permis après de faire pas mal d'autres musiques sur des films et des séries et des trucs qui sont complètement, que moi, à la base. Je pense que j'aurais pas atteint sans avoir eu un truc sur un film américain, des séries comme How I Met Your Mother ou d'autres trucs sur lesquels j'ai bossé qui sont, je pense. Le talent ça suffit pas en réalité. Il faut que ça soit exposé. Et à partir du moment où c'est exposé, tu te retrouves à avoir, surtout quand tu fais un truc particulier comme je pense ma musique, où il y a pas grand monde qui fait la même chose, tu vois.
Bien sûr.
Donc soit on vient pas te chercher, soit on vient te chercher parce qu'on a besoin de ça.
Quand tu dis le talent ne suffit pas. Quand tu as du talent, après, t'as un sixième sens de ton talent, tu sais où l'exploiter et tu sais où aller chercher les gens qui peuvent te. Après, c'est faut à un moment donné. Et c'est ça le problème de cette société-là.
Tu faisais le parallèle avec le foot et t'as complètement raison. Il y a une dose d'opportunisme.
Il y a une dose
d'opportunisme à avoir et il y a des gens qui sont juste des gens talentueux. Alors. Ils n'ont pas forcément cette dose-là d'opportunisme. Et c'est pour ça que je te dis que des fois le talent suffit pas. Il faut aussi savoir être malin, faire le dos rond à certains moments et notamment dans des trucs comme la musique où aujourd'hui on est à l'époque où n'importe qui fait du son avec un ordinateur et trois, il peut télécharger dans l'après-midi de quoi faire de la musique. Hyper rapidement, c'est même plus une concurrence là, c'est déjà le foot, tout le monde fait du foot, mais là dans la musique ça devient.
Quand tu parles du foot, t'as l'exemple, t'as l'exemple d'une pépite footballeur marocain, c'est JS, il manque de psychologie vaillite. Je pense que c'est un mec,
c'est un joyau.
Ah oui, oui, oui.
C'est un joyau, c'est le joyau du Maroc. Tu peux pas, à un moment donné, dans la psychologie du mec qui est, parce que, tu saches que Ziyech, c'est un mec qui est livré à lui-même. Après, il y a des paramètres. Moi, quand je vois Jamel, gérer Belali ou gérer Riyad, parce que Riyad, il est très, très dur à gérer aussi, ne crois pas qu'il est très dur. Et Jamel, il a cette psychologie. Et Vahid.
Moi, j'aurais aimé que Vahid, justement, fasse preuve de. Enfin, on peut pas se priver. Pour moi, on peut pas se priver de Rachid Ziyech. Ni même de Nusser Mazraoui.
On va rester sur le Maroc. Avec la caution, avec Ahmed. Oui, avec Abdel et Mourad. On vous écoute, messieurs.
Ouais, justement, on parlait du Maroc. Moi, on est en période de CAN. Je voulais savoir ton rapport avec la sélection marocaine.
Il est viscéral de chez viscéral, c'est-à-dire que bon, en tant que franco-marocain, forcément tu vibres sur les deux équipes, mais honnêtement, moi j'ai grandi dans les années, on va dire dans les années 80, je suis né dans les années 70, donc du coup j'ai ce rapport au pays d'origine qui est bien plus direct que pas mal de plus jeunes, de binationaux d'aujourd'hui. Et donc c'est vrai qu'on a moi l'équipe nationale marocaine, j'ai toujours été complètement possédé, même dans un match, on va dire qu'il y a pas d'enjeu. Et le fait est que il y a toujours eu au Maroc, il y a toujours eu une culture du football entre guillemets plaisant. Ça veut dire que même quand tu gagnes pas ou t'as pas de titre ou quoi que ce soit, etc., il y a une exigence autour du jeu, autour de quelque chose qui
fervent supporter au Maroc,
et qui contraste avec justement ce qui se passe aujourd'hui avec Vahid. Et ce qui est pas forcément plus mal, moi je dis pour l'instant je dis rien, parce que je me dis l'espèce de mur qui est une super défense extraordinaire qu'il a, qui peut aligner sur laquelle il peut on va dire se reposer. Et pour une fois. Alors, sans retourner jusqu'à Badouzaki, mais pour une fois, on a un vrai gardien. C'est-à-dire que la balle qui sort contre le Ghana, c'est en plus main opposée, c'est magnifique.
Faut pas oublier que le Maroc, surtout le roi, il savait que son pays, il adorait le football, il a construit le fameux à Rabat,
le centre de
l'infrastructure. Il y a un truc qui est bien, c'est que c'est ça, en Afrique où il n'y a pas une fédération, il n'y a pas un président qui a fait ça avec sa fédération. Ils ont même fait bouger Nasser Larguet sur la formation du Maroc. Ouais. Et c'est dommage. Et là, c'est le fruit de ce travail que Vahid est en train de mettre en place.
Pour ce que tu disais sur Mourad, mais
le coach Mourad.
Du coup, c'est vrai que ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de titre côté marocain. Et est-ce que justement toi, en tant que fervent supporter, là, avec le pragmatisme de Halil Hodžić, est-ce que tu penses qu'il y a moyen d'aller au bout, même si tu restes très tranquille sur ça, mais comment tu l'appréhendes, même s'il n'y a pas forcément du jeu au rendez-vous?
Je pense que justement, le match d'hier avec une autre mentalité que celle d'Halil Hodžić, alors, c'est vrai que ça fait, on a souvent été sur les quelques dernières générations, en tout cas on était bien défensivement, que ça soit depuis les Naïbet et compagnie, etc. On a à chaque coup eu une bonne défense, une bonne assise défensive. On a rarement eu un bon gardien. Là c'est le cas. Mais par exemple hier, sans critiquer ou quoi que ce soit, mais le niveau du milieu de terrain par exemple est bien moindre à ce qu'on a pu connaître par le passé au niveau marocain, et notamment en sachant que des mecs comme Ziyech ne sont pas là pour d'autres problèmes, etc. On est sur du joueur qui est encore en devenir, avec des joueurs qui le petit danger là dont on parlait avec Mourad tout à l'heure, Ounaï là, qui sort de l'académie, je crois, de l'académie Mohamed VI, qui vient mais tout de suite contre,
c'était très dur hier pour lui,
tout de suite contre une grosse équipe comme le Ghana, où c'est pareil, le Ghana c'est une des nations phares du continent, qui a toujours une génération, même quand elle est un peu en dedans comme celle-là, on va dire elle ressort un peu moins, mais c'est toujours d'excellents joueurs à chaque poste, etc.
T'as les frères Ayou quand tu tapes le premier match, tu tapes le Ghana, tu tapes pas n'importe qui,
c'est ça. Et surtout j'ai envie de dire, avec la, même si c'était un match un peu entre guillemets où il y avait des moments où c'était un peu d'une purge, c'était quand même un match très tactique que le Maroc a gagné à plate couture en termes tactiques, parce que mine de rien,
Je crois que c'est une soixantaine de pourcents de possession de balles en ayant neutralisé et avec des mecs qui n'ont pas encore on va dire l'expérience pour être des tauliers face au Ghana, tu vois, que ça soit Imran Louza ou que ça soit Onaï, c'est des bons joueurs, hein. Moi j'ai
Imran, je suis content, mais pour moi c'est une super pépite.
Ouais, bien sûr, mais c'est pour moi pas encore prêt à être, c'est pas comme là tu sais, il y a pas si longtemps que ça t'aligné Belanda, Boussoufa et des gens qui avaient de la bouteille pour aller se taper au milieu de terrain avec n'importe qui, tu vois. Et c'est vrai que là je me disais peut-être que ça allait être compliqué, mais pourtant hier ils ont fait un très bon match et on a réussi à prendre la victoire.
Après les propos d'Ahmed, rapidement, Mourad, il nous reste une pause. On va revenir avec le coach Sotoudeh.
Je pense que c'est là qu'intervient tout le génie de Vahid Halilhodžić, c'est qu'il a su faire passer un collectif au-dessus des individualités. Auparavant, le Maroc, que ce soit les équipes d'Afrique du Nord en général, c'était beaucoup d'individualités, techniquement au-dessus du lot. Je me souviens même d'une époque de l'équipe du Maroc avec des Jawad Zahiri, etc.
C'est incroyable.
Ouais. Mais on voit que c'était des individualités disloquées qui ne s'inscrivaient pas forcément dans un collectif. Là, aujourd'hui, Vahid a amené son empreinte, il a mis le collectif en priorité par rapport à tout, par rapport à des individualités, même telles que Ziyech.
Oui,
le collectif est au-dessus de tout et en témoigne notamment ce repli défensif, je ne sais pas si tu l'as vu, vers la 70e minute, où ils se replacent tous derrière le ballon, où ils sont en symbiose avec leur coach, en témoigne même le but de Boufal, je crois que c'est un des symboles de cette CAN. Il y a la collade entre Boufal et Halilhodžić, plus les larmes d'aujourd'hui.
Mais je ne sais pas si tu as vu après le but.
Du gardien Camara.
Après le but, on a quand même retrouvé sur 2-3 actions, bon, c'était la fin du match, le vrai Maroc.
Oui,
c'est-à-dire que les dédoublements de passes, les dédoublements de passes et compagnie, le fait de jouer après, que pendant tout l'autre match, c'était une équipe très très concentrée et c'est très bien. Pour l'instant, je me dis voilà, il faut à un moment donné varier les plaisirs et de toute façon dans le foot moderne, t'as besoin des deux, c'est-à-dire et du talent, etc. Et aussi de cette espèce
surtout quelqu'un comme Vahid, il a des habitudes de jouer défensif à 5.
Après quand t'as Marquinhos et Saïs en défense centrale aussi, ça aide.
C'est vrai qu'à Guerre
c'est très très fort. Hein.
Ouais. Merci Aboula. On n'a plus trop de temps. On va faire une courte pause. Ahmed, notre invité. Et oui, on n'a même pas donné la parole aussi au coach Tolé. On va revenir avec le coach Tolé. Ça c'est promis. Le Gabon, sans oublier le Nigeria et l'Égypte. À de suite.
Time Foot revient dans un instant. Time Foot avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
De retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours en compagnie de la caution avec Ahmed, avec Mourad, sans oublier Boula, notre Abdel, notre reporter et le coach Tolé de la partie. Allez, on s'attarde sur la dernière partie de cette émission avec la dernière rubrique, avec justement les deux rencontres, le Nigeria face à l'Égypte et aussi les Gabonais hier face à l'archipel des Comores. Eh oui, nous pensons aussi aux Comores, les Comoriens. Avec aussi cette cité phocéenne. Voilà. Alors, on va s'attarder avec.
Salut, les Comoriens. Ouais, les Comoriens. De la Courneuve, de Dunkerque, de Marseille.
Ouais, un sixième, quasi aussi. C'est pas mal. Magnifique, les Comores. Abdel, Soudan, Guinée-Bissau, 0-0, je crois.
Ouais, dans le groupe du Nigeria et de l'Égypte, toujours 0-0 entre les deux équipes,
ouais. Ouais, ne place pas que Zizou et Comorien, toi aussi. Arrête tes bêtises.
Non, je pense que justement, le Nigeria.
Entre le Soudan et la Guinée-Bissau.
Bien sûr. Le coach Tolé, justement, une finale avant l'heure, les Nigeria, eh oui, qui en arrive à remporter cette rencontre face au pharaon de Mohamed Salah.
Le Nigeria, c'est un peu à l'instar du Ghana, sont ces sélections habituées des grands rendez-vous, habituées de la Coupe du Monde, toujours présents en Coupe d'Afrique, même si tu as peut-être moins d'individualité que les équipes qu'on a connues dans les années, fin des années 90, début des années 2000, mais il y a cette expérience. Du haut niveau, t'as de très bons joueurs en général sur toutes les lignes. Moi, c'est pas étonnant c'est parce que tu as Salah de l'autre côté que forcément l'Égypte va faire la différence. Pour moi, t'es une équipe d'Égypte qui est moins performante qu'il y a quelques années. Et puis le Nigeria, enfin, est toujours présent. Enfin, pour moi, il y a rien de surprenant à ce que le Nigeria ait battu l'Égypte. Et je pense que ce type de sélection va pouvoir
plus agressif le Nigeria, un petit peu moins dynamique. On a l'impression
on met beaucoup en avant l'Algérie, le Sénégal.
On oublie les autres nations.
Mais t'as les nations, elles sont,
elles sont là,
elles seront toujours là. C'est quand même ces équipes-là.
Comme la Sierra Leone aujourd'hui,
c'est le Niger, c'est quand même partie des nations qui ont marqué le football africain. Et quand on parle du marqué le football africain,
Nigeria, Cameroun,
sur laquelle, mais surtout en Coupe du Monde.
Il est d'accord avec le
coach. En Coupe du Monde, ils ont souvent marqué les esprits.
Aujourd'hui, ils ont battu les maîtres de l'Afrique. L'Égypte, c'est quand même
la grosse.
Mourad,
ça a toujours été une histoire, l'Égypte.
Alors, Mourad, la réaction, on l'écoute.
Moi, je qualifie ce match Nigérien-Égypte un peu comme la finale anglophone de l'Afrique, en fait.
Ouais.
Il y a d'un côté l'Égypte avec
c'est pas égal.
D'un côté.
Ouais.
Nous, on a peut-être de notre côté, de notre prisme francophone africain, on voit peut-être mal ces équipes comme le Nigeria, comme l'Égypte, mais les Super Eagles, c'est juste incroyable. Le mec qui marque aujourd'hui le but de la victoire pour le Nigeria, c'est Yaya Nacho. Yaya Nacho, c'est une valeur sûre de la Première Ligue. Ils ont des joueurs comme Wilfried Ndidi, ils ont des Chukwu Enze qui sont des valeurs sûres en Liga. Et l'Égypte en face, c'est l'histoire. C'est 6 ou 7 Coupes d'Afrique, je ne me trompe pas.
Mais c'est une grosse assise de club, l'Égypte.
Ouais, exactement.
Oui, c'est un peu comme, la Tunisie. C'est les deux pays qui s'assoient beaucoup sur leur club.
Il a joué à Paris.
Et notamment.
Oui, mais il est anglophone. Même s'il a joué en France.
En Égypte, tu as ce truc-là. Et c'est vrai que leurs clubs sont peut-être un poil moins forts ces dernières années.
L'Ali, Zamalek.
Et du coup, peut-être que ça s'en ressent. Et comme tu disais,
juste le titre.
C'est sûr que Mohamed Salah, bien sûr, tout Mohamed Salah qu'il est, il ne peut pas non plus.
Et je pense même que ça dessert le schéma habituel de l'Égypte qui surfe sur des automatismes en club, Ali Zamalek, versus une superstar. Et des seconds couteaux derrière.
Et c'est là que tu vois la différence avec des sélections moindres. Hier, je crois que je vous entendais parler du Zimbabwe, par exemple, qui a donné du fil à retordre au Sénégal. Il n'y a rien de surprenant de voir ces sélections solides où tu as des joueurs qui, la plupart, ne jouent pas peut-être en Europe, mais jouent dans les meilleurs clubs en Afrique. TP Mazembe a en général les meilleurs joueurs zambiens, zimbabwéens. Ils ont un mois de préparation, parce qu'ils n'ont pas subi cette pression qu'ont subi les joueurs européens. Derrière, et ce sont des nations qui progressent, donc forcément, même s'il n'y a pas forcément du beau jeu, va falloir aller les chercher.
C'est
très difficile cette
carrière. Ça fait longtemps qu'ils ont progressé. Quand tu vois que c'est qui avait gagné
La Zambie.
Vois la Zambie qui avait gagné. Quand tu regardes la Zambie quand ils gagnent la Coupe d'Afrique, que ce soit l'Algérie, le Maroc, quand ils regardaient jouer les Africains, eux ils disaient rien, les Africains, mais ils travaillent dans leur côté, ils bossent et ils se construisent. Et c'est ça qui fait la qualité de la Zambie quand ils ont gagné la Coupe d'Afrique, parce que tu t'attends, tu te dis tiens quoi, les Africains, parce que ça c'est toujours le terme, les Africains ils ont rien, ils ont pas, mais finalement c'est des mecs qu'on leur donne les moyens, Mourad avait raison sur le
côté anglophone, mais par exemple la Zambie a une histoire incroyable au niveau footballistique, même avec l'équipe qui était c'est une grosse nation de football, mais nous du prisme français, c'est vrai qu'on voit plus la Côte d'Ivoire, le Maroc, l'Algérie, le Cameroun, le Sénégal, etc. Et d'ailleurs, sans juste petite parenthèse pour revenir au Maroc, moi je vois même ma propre connaissance de la propre équipe que je supporte, elle est différente selon le nombre de joueurs qui par exemple ont évolué dans un prisme franco-français, genre quand l'équipe dont tu parlais avec Zaïri et compagnie, c'était presque tous en France, c'est une équipe qu'on connaissait par cœur, mais là aujourd'hui
t'as
énormément de mecs qui jouent en Allemagne, en Hollande, etc. C'est beaucoup plus dur à capter, et dans des équipes comme l'équipe de Zambie ou dans plein de sélections africaines, t'as plein de joueurs qui jouent même dans des championnats comme la Norvège,
intéressant,
et qui sont des très bons joueurs.
Qui disputent des Ligues Europa, des matchs de Ligue des Champions, dont on calcule pas, forcément.
Mais bien sûr, et pour en revenir sur la Zambie, ils partaient pas d'une page blanche, c'est aussi en catégorie jeune, ils font énormément de finales de Coupe d'Afrique, de finales de Coupe du Monde, U19, donc Hervé Renard, quand même, il avait il avait choisi ce projet.
Ouais.
C'est pas Hervé le Renard. Sorcier blanc tel qu'on aime le qualifier. Il y a vraiment un gros travail qui a été fait.
Pour revenir au match, c'est vrai que Claude dit qu'il faut pas oublier ces équipes comme le Nigeria. Moi, franchement, je les voyais un peu en dessous à l'arrivée de cette Coupe d'Afrique. En plus, ils ont perdu Guernot Rohr juste avant la compétition. Enfin, ils ont décidé de se séparer de lui qui était là quand même depuis.
Des sorciers blancs, justement. Je pense que c'est même la fin des sorciers blancs.
Il était quand même là depuis un moment. Mais par contre, sur l'ensemble du match, il y a pas eu photo. On en parlait. Il y a des côté nigérien. Il y a quand même une grosse assise de joueurs qui jouent en première ligue, ils leur ont mis un pressing très haut, c'était très très agressif, ils les ont étouffés, ouais. Et finalement l'Égypte n'a jamais su mettre en place son jeu, et juste des attitudes qu'on a vues, qu'on voit rarement, mais par exemple El Neni, qui était au milieu du terrain, qui jouait beaucoup en retrait parce que il n'y avait pas assez de solutions maintenant par rapport à la tactique, etc. C'est vrai que quand il y a beaucoup de joueurs d'Al-Ahly, du Zamalek ou quoi, et que tu mets une superstar comme ça là, qui est ta tête d'affiche, et que tu changes tout pour lui, mais tu vois que ça marche pas à un moment donné. Carlos Queiroz, il est en capacité, il a l'expérience pour remettre l'église au milieu du village. Mais
j'aurais dit la mosquée au milieu du village.
Pour revenir sur le Nigeria,
le coach
Tolé. Par exemple, à l'échelle mondiale, l'équipe de France les affronte en 8e. En 2014, on s'impose que 2-1. En 2018, je pense que si l'arbitre est un peu plus objectif.
On s'impose 2-1.
La France.
T'es pas pris.
La France. Je suis français d'origine congolaise.
C'est ça, voilà.
Je continue.
Bien sûr, tu continues.
Crise identitaire sur le plateau.
En 2018, si l'arbitre est objectif, l'Argentine de Messi ne passe pas face au Nigeria. Mais l'arbitre, il a décidé de pas siffler, ça joue à pas grand chose.
On peut même rappeler l'épopée du Ghana en 2010.
Ouais, après, pour revenir au Nigeria, vraiment, ils ont cette histoire. Ils ont peut-être moins d'individualité qu'il est au Okocha, les Kanu qu'on a connus, les Finizi, ils avaient des joueurs extraordinaires. Mais t'as toujours un vivier, qui est.
Ouais, mais il y a un vivier, le but de Iheanacho.
C'est le but de la CAN.
Le problème, tu sais, c'est quoi? C'est les coachs. Et quand tu regardes les coachs, les Africains, ils vont prendre des coachs qui viennent de la France. Ils vont pas te prendre. Tu prends Ben Madi, l'Algérie.
Ouais. Il vient de la France.
Tu prends Sénégal. Ouais. Et non, c'est quand même des mecs qui ont la formation, qui ont la théorie et qui connaissent bien le pays et qui connaissent bien les mentalités. Ouais. Le problème de coacher une équipe, faut connaître un peu le système du pays.
Ben Madi le connaît.
Mais même Aliou, et les présidents, le président du Sénégal, il a eu l'intelligence aujourd'hui de garder toujours Aliou.
À l'échelle mondiale, on fait pas confiance déjà aux entraîneurs d'origine africaine, maghrébine. Non mais
c'est d'ailleurs un problème très français.
Nos propres sélections qui sont en général, ce sont pas forcément eux qui gèrent toutes les fédérations. Et ben eux, naturellement, tu vas avoir des.
Moi j'ai vu des coachs en Algérie.
Intéressant.
En France, dans tout le foot amateur, t'as énormément de coachs qui sont d'origine africaine. On va dire ça comme ça pour globaliser le truc. Mais dès que tu montes quelques étages, n'a quasiment plus du tout. Cette espèce de modestie qui par exemple, si Belmadi surajoute un C à Belmadi, Belmadic, il serait annoncé dans n'importe quel grand club. Sa manière d'avoir repris l'équipe d'Algérie, d'en avoir fait quelque chose d'ultra cohérent et limite de très fort, quoi, en quelques temps, assez rapidement. Je pense que normalement, ça aurait dû lui valoir plus de on va dire une réputation footballistique plus grande, et pas uniquement celle en se disant, ouais, mais c'est pour l'Afrique, l'Afrique. Comme si c'était un level moindre. Alors que des mecs comme, les sorciers blancs, n'ont jamais souffert de cette réputation, quoi.
Alors, Abdel, on va revenir à Abdel.
On peut faire le même jeu de mots avec Aliou Cissé, si c'était Aliou Cipré.
Abdel, on y va. Il faut enchaîner
sur les individualités. Pour revenir sur les individualités dont parlait Claude, c'est vrai qu'Osimhen n'est pas là, mais ça a permis à des joueurs qui sont confirmés mais qui n'ont jamais forcément tout le temps leur chance en sélection par rapport à une différence de statut de s'imposer. Et encore une fois, voilà, l'Égypte, c'est vrai que c'est quelque chose d'historique. Mais à un moment donné, comme je crois que c'est Samir qui le disait hier, faut pas non plus vivre sur le passé. C'est vrai que faut respecter, mais à un moment donné, quand tu changes pas un petit peu ton fer de lance, t'arrives plus à avancer et on se dit que t'es comme il y a 10-15 ans alors que la recette elle a complètement changé et que le foot a évolué.
Pour revenir sur les coachs dont on parlait, c'est Joseph Antoine Bell qui a quand même évolué en France. On parle quand même de Bordeaux, du grand Bordeaux, de l'OM, les années Tapie, le début des années Tapie, de la Saint-Etienne, qui est l'un des meilleurs gardiens africains de tous les temps, qui racontait lors d'un... il passait ses diplômes d'entraîneur à Clairefontaine et il raconte en rigolant, il a aimé Jacquet, qui lui dit, ah bah tiens, voilà, les Lions indomptables ont trouvé leur coach. Le gars, il a passé 15 ans de sa carrière quasiment Bordeaux, en D1, était ouais. déjà était en train déjà de l'orienter naturellement parce que il est camerounais, ouais. à entraîner une sélection ou un club plutôt
on
que.
On revient à ce
que
disait notre invité.
Je suis tellement conditionné que j'avais même pas saisi en fait la remarque. Ouais, mais moi, il était aussi naturellement.
Le problème, c'est que la gestion
des entraîner les Lions indomptables.
Bah, mais t'as c'est le plafond de verre. Il l'a mettait.
Mais Claude, là quand tu dis ça, mais Clairefontaine, l'unicatef des entraîneurs, ils font tous les mecs qui passent les diplômes, tout ça, c'est eux qui sont orientés, ils sont orientés par la NUCATEF parce que c'est un système aussi. C'est un système. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au lieu de former vraiment des Africains qu'on grandit ici pour leur dire voilà, vous allez apporter un grand plus à votre pays parce que vous connaissez la culture de vos pays. Non, ils vont pas envoyer un Africain, ils vont envoyer un blanc. Ouais. Et c'est ça.
C'est
ce qu'a besoin la France.
Je pense que c'est très important de le rappeler. Chez nos confrères de RMC,
on va parler
un des chroniqueurs de qui avec couvre Abdel la Coupe d'Afrique des Nations, c'est Julien Mette, l'ancien sélectionneur du Djibouti. Il n'y aurait pas peut-être plus prestigieux en termes de connaissances footballistiques, en termes de statut, pour couvrir un événement tel que la CAN.
Après, moi personnellement,
on termine
je
connais
Julien
Mette.
Après, un peu dans la provoque.
Je connais Julien Mette, c'est un mec, c'est un QI football de malade. Julien, qui est un mec qui était à l'époque à Bordeaux et qu'on avait rencontré à cette époque-là, c'est un mec qui a vraiment. C'est pour ça, même justement, que même s'ils étaient juste, entre guillemets, le coach de Djibouti, les mecs l'avaient parce que c'est un mec qui est vraiment très intelligent en matière de football.
Et football intéressant. Mais pourquoi ce potentiel-là, on le reconnaît dans le sens inverse, et nous, on ne reconnaît pas le potentiel.
Ouais.
On ne peut pas s'arrêter sur des statuts, sur des entraîneurs confirmés à l'instant T. Mais pourquoi, dans le sens inverse,
mais il faudrait qu'on le fasse nous-mêmes. Il faudrait qu'on le fasse nous-mêmes, en premier lieu. Parce que regarde, moi, la dernière fois, je parlais avec un ami à moi qui est sénégalais, je lui disais, écoute, arrêtez de descendre un mec qui fait du bon boulot. Parce que dès que un demi-match où on va dire le Sénégal est un peu moins bien, un peu comme on connaît tous. Bah Aliou Cissé, c'est plus du tout le mec, etc. Je dis non, le mec il fait de très bon boulot, c'est un très bon coach. Il faut qu'on continue nous tous à mettre en valeur le taf des mecs comme Aliou Cissé, mais même à l'époque au Maroc comme Badou Zaki.
Ouais.
Le mec il arrive, il était gardien de but, c'est peut-être l'un des trucs
les plus. Et
finalement nous-mêmes on le met pas en valeur.
Rapide, on n'a pas parlé des Gabonais, non, et la Coupe d'Afrique des Nations avec la sélection comorienne, justement, qui n'a pas démérité face à ces stars du Gabon, entre autres.
Stars du Gabon, il manquait quand même les deux joueurs quand même phares. Maintenant, c'est vrai que les Comores, c'est leur première participation, on les a sentis un peu crispés. Ils prennent un but très tôt dans le match, malheureusement, même si en termes de chiffres et en termes de statistiques, ils sont devant en termes de possession, de tirs cadré, etc. Et ben voilà, et ça s'est joué quand même, je pense, à l'expérience. Mais je pense que voilà, il y a des choix qui ont été faits que le sélectionneur devra changer au deuxième match, surtout dans le groupe de la mort avec le Maroc et le Ghana.
Les Comores ont eu à peu près le même problème que le Sierra Leone, c'est que au Sierra Leone c'était Camara. A fait une erreur de Camara, sur un de contrôle de Camara, perte de balle de Camara. Là, c'était Abdallah, perte de balle d'Abdallah, mauvais alignement d'Abdallah, et erreur du gardien.
Non, mais c'est un fait, et
c'est aussi le charme de la Coupe d'Afrique des Nations.
Ce n'est pas nous, c'est Mourad.
C'est génial.
Le Tamfoot.
Et là, pour le coup, comme les Comores, c'est vraiment un pays qui émerge en football, et c'est magnifique le niveau qu'ils ont réussi à atteindre en très peu de temps, quelque part.
Au moins, ils n'avaient plus de sélection nationale.
C'est carrément.
Pour moi, c'est un avis perso. Pour moi, il y a trop de nations dans cette Coupe d'Afrique. Mais quand je vois autant de nations, je me demande vraiment comment la RDC ne s'est pas qualifiée. Sincèrement,
Fali, il pleut pas. Comme Fali hier lors de la cérémonie d'ouverture.
Fali, pour pas titulaire.
Kambou qui a déjà signé à l'OM. N'a pas pu.
Et tu peux bien nous en rappeler le fait que tu es.
Parce que c'est quasiment fait.
Mais oui.
Donc là, je vais t'obliger peut-être d'investir en.
Mais 2022, le rachat de l'Olympique de Marseille. Aïe. On verra bien. Boulan nous en dira un peu plus peut-être. Ou Chute Africa, ça c'est promis. Ahmed. Et oui, la caution, merci
avec
de
plaisir,
nous avoir accompagnés. On va essayer de le réinviter. Qui remportera cette CAN justement au Cameroun, selon vous? Les Marocains, les Lions de l'Atlas, les Gabonais, les Algériens, les Tunisiens?
Le cœur dirait le Maroc,
ouais.
mais en même temps, c'est vraiment une des CAN les plus ouvertes. Enfin, sur les premiers matchs, là, c'est vrai que quand on voit que toutes les équipes sont et au rendez-vous et pas flamboyantes, ça laisse vraiment ouvert tout le truc, quoi. Alors tout le monde est sérieux, ouais. Mais pour l'instant on n'a rien vu d'incroyable, c'est-à-dire on a vu personne. Et peut-être le premier match, et encore, ouais, même le match du Cameroun n'était pas si dominateur que ça. Honnêtement, c'est peut-être une CAN où il y aura une vraie grosse surprise.
On verra une CAN avec une vraie grosse surprise. On verra ça.
Bien se préparer aussi, hein. À force de retenir.
Merci. Le coach Etolé. Merci Boula. Merci Abdel et Mourad. Sans oublier aussi Larsen, tout droit venu de Saint-Germain-des-Prés. Voilà, qui nous passons le bonsoir. Et merci à vous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. Vous allez retrouver d'ici 22h à la réalisation avec Giovanni, sans oublier Vanessa. Et nous, on se retrouve dès demain pour la Coupe d'Afrique des Nations.